Madame Maria, chers auditeurs de Radio Immaculée Conception, bienvenue dans votre émission de santé, le corps à cœur. C'est Camille Billard avec vous aujourd'hui et je suis accompagnée, comme d'habitude, de Sœur Paulette pour animer cette émission. Nous allons aujourd'hui vous parler de l'AVC, ce phénomène qui peut arriver dans le cerveau et qui peut avoir de fâcheuses conséquences à beaucoup de niveaux différents, on va en parler. Et puis nous allons voir en détail ce que l'orthophoniste peut faire pour vous aider. Alors, dans un premier temps, l'AVC, qu'est-ce que c'est? Et puis, quelles conséquences ça a? Alors, un AVC, c'est donc un accident vasculaire cérébral. On parle souvent d'AVC quand, brutalement, le sang ne circule plus normalement dans le cerveau. Dans 80% des cas, c'est parce qu'il y a un caillot dans un vaisseau sanguin, c'est-à-dire un bouchon. Alors, le sang est bloqué et il ne peut plus apporter d'oxygène au reste du cerveau. Mais le cerveau, il a besoin d'oxygène pour bien fonctionner. Et puis, dans 20% des cas, l'AVC est dû à une hémorragie cérébrale, c'est-à-dire un vaisseau de sang qui craque et le sang se répand dans le cerveau. Dans tous les cas, l'AVC, c'est très grave, parce que ça touche le cerveau, et le cerveau, c'est le chef, c'est celui qui dirige tout notre corps. Donc, c'est vraiment une urgence médicale. Alors, il y a des signes qui annoncent l'AVC. Si vous sentez des vertiges, que vous voyez plus très bien, si vous avez des difficultés à articuler ou à trouver les mots pour parler, si vous n'arrivez plus à bouger certains membres, alors ça peut être l'annonce d'un AVC. Donc c'est vraiment une urgence, contactez un médecin. En plus, plus l'AVC est pris en charge tôt à l'hôpital, moins vous aurez de séquelles. Et puis, une fois que vous avez été soigné par le médecin, il va rester beaucoup de difficultés. Et alors, à ce moment-là, voyez vite l'orthophoniste et le kiné pour récupérer au maximum. On va revenir maintenant sur les conséquences qu'a l'AVC. Donc on a dit qu'il y a un problème dans le cerveau qui va avoir des séquelles différentes selon l'endroit du cerveau qui est touché. Alors avant de vous détailler un peu les conséquences, pour bien comprendre ce qui ne va pas, je voulais vous proposer une image. Notre corps, c'est un peu comme une entreprise. Le cerveau, c'est le chef. Et puis, cette entreprise, elle a plusieurs services, plusieurs secteurs. Dans chaque secteur, il y a des travailleurs. Par exemple, dans le secteur des jambes, chaque muscle des jambes va être un travailleur. Dans le secteur de la bouche, les lèvres sont un travailleur, la langue est un autre travailleur, etc. Comme dans toute entreprise, les travailleurs, ils reçoivent les ordres du patron. Et cet ordre doit passer du patron au travailleur. Et pour ça, ils utilisent le facteur, la poste, pour avoir le message. Donc si on récapitule, il y a le patron qui donne le message à la poste et la poste envoie ça au travailleur. Donc, quand un travail n'est pas fait, il faut savoir d'où vient le problème. Est-ce que c'est le travailleur qui ne peut pas travailler? Est-ce que c'est la poste qui ne peut pas passer sur la voie parce qu'elle est bouchée? Ou est-ce que c'est le patron qui ne donne pas d'ordre ou qui se trompe dans l'ordre qu'il donne? Alors, c'est pareil pour notre corps. Quand il y a un AVC, c'est le cerveau qui est touché. Le problème vient donc du patron ou de la poste. C'est comme si le patron était malade, il vient pas travailler, alors bah, les travailleurs ils reçoivent pas d'ordre et ils ne font rien. Ou alors, le patron donne bien l'ordre, mais c'est la poste qui peut pas passer et qui bloque cet ordre-là. Par exemple, pour parler, la langue, les lèvres, la gorge, la bouche, tout ça va bien. Mais ils reçoivent pas d'ordre, ou alors un mauvais message. Alors, la personne n'arrive pas bien à articuler et on ne comprend pas bien les mots qu'elle veut dire. Par exemple, au lieu de dire « je veux boire », elle peut dire « ouah », quelque chose comme ça. Elle ne fait pas du tout exprès et elle se fatigue beaucoup pour essayer de parler quand même et qu'on puisse la comprendre. Un autre problème, c'est que à force de ne pas travailler, les travailleurs ils vont perdre leur bonne capacité et ils ne sauront plus faire correctement le travail. Par exemple, à force de ne plus marcher, les muscles des jambes vont diminuer et un jour, même si l'ordre revenait de travailler, bah, il ne serait plus en état. C'est pour ça qu'il faut voir rapidement l'orthophoniste et le kiné après un AVC pour ne pas perdre ses capacités et pour retrouver au maximum celles qu'on a perdues. Alors je vous propose maintenant de voir les différentes séquelles qu'on peut avoir après un AVC. Alors on n'aura jamais tout ce que je vais vous dire en même temps. Cela dépend de l'endroit du cerveau qui est atteint et de la personne. Tout le monde est différent. Alors, par exemple, au niveau du corps, on a souvent une hémiplégie, c'est-à-dire une partie du corps, soit la droite, soit la gauche, qui est paralysée. Au niveau de la parole, on peut avoir une grande difficulté à articuler, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça s'appelle la dysarthrie. Au niveau du langage, on peut avoir une aphasie. On va en reparler pas mal dans cette émission. La personne aphasique, elle peut avoir des difficultés variables pour parler, pour comprendre, pour lire, pour écrire. Elle est donc en grande difficulté pour communiquer. Soit les mots ne sortent pas, alors que la personne, elle sait très bien ce qu'elle veut dire. Soit les mots sortent, mais c'est pas les bons. Et pour autant, cette personne n'est pas folle, c'est seulement un dérèglement au niveau du langage dans son cerveau. Et ceci va donc avoir des répercussions sur la vie quotidienne de la personne aphasique, mais aussi de son entourage. Tout ce qui était naturel avant peut devenir difficile ou impossible. Discuter, comprendre, téléphoner, regarder la télé, écouter la radio, écrire, mais aussi se promener, s'habiller, tout ça devient compliqué. Donc c'est vraiment une nouvelle situation qui commence pour la personne qui vient de faire un AVC et aussi pour son entourage. On peut aussi avoir des problèmes de déglutition, c'est-à-dire pour avaler. Certaines personnes peuvent tousser beaucoup et avoir du mal vraiment à avaler et du coup à manger. On peut aussi avoir des difficultés à reconnaître un objet et à savoir à quoi il sert. C'est vraiment étonnant quand on rencontre des personnes comme ça. Par exemple, on peut leur donner une clé et puis la personne regarde ça. Elle se demande à quoi ça peut bien servir. Même quelquefois, elle peut dire comment ça s'appelle. Elle peut dire « Ah, c'est une clé !» Mais par contre, elle ne sait pas l'utiliser. Elle ne sait pas ce qu'on peut en faire. D'autres personnes ne vont plus reconnaître les odeurs, les goûts, ou même ne plus reconnaître les personnes qu'elles voient, ne plus savoir qui c'est. Enfin, pour tous, on observe une grande fatigabilité. Toute chose leur demande un gros effort. Et leur corps réclame beaucoup de repos. C'est pas de la paresse, c'est vraiment le corps qui a besoin de repos parce qu'il fait énormément d'efforts tout au long de la journée pour faire n'importe quel exercice. Enfin, une autre conséquence, c'est les difficultés psychologiques. Sœur Paulette va vous en reparler tout à l'heure. Parce que évidemment notre vie bascule du jour au lendemain, on peut plus parler, on peut plus rien dire et on a vraiment du mal à faire toutes les activités du quotidien. Du coup, c'est difficile à vivre. Alors, on va faire une petite pause musicale et juste après, vous retrouverez Sœur Paulette qui vous donnera plein de conseils et puis répondra aux questions qu'on se pose souvent. Mais d'abord, nous écoutons le chœur impérial de Marie qui chante « Je sais qui je suis ».
Nous sommes une génération de conquérants, appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, pour manifester l'excellence de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes une génération choisie.
Nous sommes une génération choisie.
Génération.
Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence.
Tout ce dont j'ai besoin,
tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ.
Vous êtes bien sur la radio Immaculée Conception, le cœur à cœur continue. Nous venons d'entendre le chœur impérial de Marie qui chante « Je sais qui je suis ». Alors, que peut faire l'entourage en face de cette personne malade? La première des choses la plus importante, c'est de donner tous les renseignements possibles pour permettre aux professionnels de construire une rééducation adaptée aux parents. malade. Alors, donc, il faut parler de lui, de sa famille, de son travail, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, décrire un peu sa personnalité, son mode de vie, ses centres d'intérêt, c'est-à-dire s'il aime le sport, quel loisir il aime en plus, donner des informations sur les préférences alimentaires, s'il a d'autres soins particuliers, parler de ses habitudes langagières antérieures, s'il était bavard ou s'il aime lire, tout ça. Ça va permettre au professionnel de mieux l'aider. Et sachez que l'entourage le plus proche a un rôle très important, essentiel, pour soutenir le patient. Il doit le rassurer, le favoriser son autonomie pour ne pas l'infantiliser du tout. Il faut l'inclure dans les conversations en lui parlant, en le tenant au courant des décisions importantes concernant la maison. L'informer des activités de la famille, lui demander son opinion. Et tout cela est important pour qu'il découvre qu'il n'a pas perdu sa place. En dehors de ça, nous avons quelques conseils pratiques pour faciliter la communication avec la personne malade. Donc, il faudrait qu'on soit assez réceptif à tous les modes de communication. Éviter les idées préconçues. Parce que la personne qui a cet handicap ne dit pas qu'il ne comprend rien. Évitez les idées préconçues sur la personne et son handicap. Comme quoi elle ne comprend rien, elle ne veut pas parler. Pensez que la personne qui est malade sait ce qu'elle veut. Mais c'est parce qu'il ne sait pas comment le dire, il n'a pas les bons mots pour le dire. Il peut buter sur les mots. Il ne faut pas l'infantiliser. Il faut être disponible, patient pour mieux l'écouter, lui donner du temps. Ne pas parler à sa place, lui donner le temps pour qu'il s'exprime, même si ça doit être long. Soyez patient, ne faites pas semblant de comprendre. Il faut essayer de reformuler et de l'encourager. Cherchez à comprendre ce qu'il dit. Évitez les injures ou le tutoiement. Aménagez un environnement calme, évitez la télé, les bruits qui peuvent le perturber. Qui peut perturber sa concentration. Il faut lui donner une activité et une seule à la fois. Éviter les conversations de groupe parce que ça le fatigue beaucoup et non seulement, c'est comme si on l'expose. Et pour les questions, la personne peut confondre le oui ou non. Il est parfois utile de vérifier si vous êtes bien compris ou pas. Aidez-le à vous comprendre. Et comment cela peut se faire? Il faut parler lentement. Faites des phrases simples et courtes. Préférez des mots concrets dans un premier temps. Donnez une idée à la fois, ne pas tout mélanger. Il faut marquer de pause quand vous lui parlez. Il faut reformuler si nécessaire. Ne pas passer de coq à l'âne. Il faut le prévenir si vous voulez changer de sujet. Parce qu'il n'est pas préparé, il ne peut pas comprendre. Si vous utilisez l'écriture, écrivez l'idée principale en un mot seulement ou en utilisant le moins possible. Utilisez aussi des dessins, les pictogrammes ou l'écriture collée au mur à des endroits bien précis de la maison pour l'aider. Si vous voulez poser des questions très simples. Est-ce que tu veux manger? On te prépare du riz? Ainsi de suite, là c'est très concret. La réponse serait simple pour vous et pour lui, il serait moins fatigué. Donc la compréhension est facilitée lorsqu'on s'appuie sur la situation en cours ou à défaut. Maintenant, pour aider cette personne à s'exprimer et à faire passer son message, que faut-il faire? Il faut le solliciter, l'encourager à parler, laissez-lui le temps de bien parler. Ne finissez pas les phrases à sa place. Concentrez-vous sur le sens et non sur la forme de ce qu'il dit. C'est pas parce qu'il va mal parler que vous serez là à rectifier, mais essayez de voir le sens, ce qu'il veut dire. Et ça suffit. Il faut l'encourager à s'exprimer avec les gestes, les dessins, l'écriture, les objets, tout ça. Encouragez-le. Il faut pas l'interrompre quand il parle ou quand il se trompe. Ne cherchez pas à le corriger comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas le faire répéter, ne pas trop lui poser des questions. Et poser une question à la fois et c'est bon. Et s'il bute sur les mots, prenez le temps de reformuler. il arriverait que la personne jargonne, c'est-à-dire il dit des choses qui ne collent pas ou qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. Les changements de comportement et les troubles psychologiques peuvent aussi être de l'ordre de ce qui va constituer des difficultés au patient. Parce que maintenant, son cadre de vie est modifié, il peut arriver qu'il serait désintéressé de tout, irrité, stressé, il faut le comprendre. Il a beaucoup de difficultés à accepter l'imprévu parce que c'est passé du jour au lendemain, c'est difficile. Donc psychologiquement, il faut beaucoup l'aider. Et ça peut entraîner des symptômes de dépression ou d'anxiété. Donc une prise en charge psychologique est à proposer. Et ça va permettre aux patients et à ses proches de s'adapter. Ça va les aider à être moins soucieux.
Je vais me faire la voix des auditeurs. On entend souvent dans nos cabinets d'orthophonie les mêmes questions. Par exemple, est-ce que l'aphasique est sourd ?
Non. La personne aphasique n'est pas sourd, il entend bien, mais peut avoir des difficultés pour analyser les sons de la parole. Ces difficultés vont gêner sa compréhension, en particulier si la personne qui l'écoute ou qui lui parle, parle trop vite ou il parle dans le bruit. C'est un peu comme si le malade entendait une langue étrangère.
Mmh. Une autre question qu'on a, c'est, est-ce que l'aphasie, ça se guérit ?
Il n'y a pas de médicament pour soigner l'aphasie. La seule chose la plus importante, c'est la rééducation orthophonique parce que ça permet d'améliorer les difficultés de langage. Et on peut parler de guérison. On ne peut pas parler de guérison car celle-ci est rarement totale. C'est-à-dire la guérison est rarement totale. Mais suivant des personnes, ça dépend de l'atteinte, la sévérité de l'atteinte, ça dépend de la personne, ça dépend du progrès de récupération, c'est-à-dire ça dépend de l'effort que le patient se donne à récupérer.
Enfin, une dernière question qu'on peut avoir, c'est est-ce que l'aphasie conserve son intelligence ?
Oui, l'aphasique conserve son intelligence mais peut avoir des difficultés à le montrer en raison des troubles du langage et de leurs conséquences. Sa pensée est normale, mais rien n'a changé. C'est le langage et la communication qui sont atteints. Voilà. Et donc, on peut vous aider à savoir la prise en charge orthophonique, si c'est nécessaire ou pas. D'abord, pourquoi l'orthophoniste ? Il faut la prise en charge orthophonique pour aider sur les difficultés d'articulation, d'expression, de compréhension, de lecture, d'écriture de la personne malade. L'orthophoniste va tenter de restituer les capacités de communication antérieure de la personne aphasique, de rendre les échanges langagiers les plus efficaces possibles ou à défaut de lui apprendre d'autres façons de communiquer en utilisant tous les autres moyens à sa disposition, comme le dessin, les gestes et tout ce qu'il peut l'aider.
C'est-à-dire qu'on essaye de le faire parler comme avant.
Voilà.
Et si ça marche pas, on trouve un autre moyen.
Très bien. Et quand est-ce qu'on peut contacter un orthophoniste? Le plus vite possible. Le plus vite possible. Et où l'orthophoniste va intervenir, peut-être au début, à la maison. Et si il n'y a pas possibilité, on amène le malade chez l'orthophoniste. On peut se demander combien de temps cela va durer. Ça dépend des efforts du patient, ça dépend de l'encouragement de l'entourage, ça dépend de la sévérité du trouble. Donc, on ne peut pas donner un temps. Et donc, si le patient aussi est régulier dans la rééducation, cela va beaucoup l'aider à progresser. Maintenant, on peut se demander à quoi sert l'orthophoniste. L'orthophoniste, il va essayer d'améliorer la communication du malade ou à restaurer son langage quand cela est possible. En séance, le travail va porter sur les difficultés de parole, de l'articulation, sur les difficultés pour construire des phrases ou dire des mots, sur les difficultés de compréhension, de lecture, d'écriture, de calcul, de raisonnement et tout ce qu'il faut. L'objectif de l'orthophoniste, c'est de redonner un maximum d'autonomie au malade en ce qui concerne la communication et de l'aider à sortir de son isolement. Alors, est-ce que la réinsertion professionnelle est possible. Si le patient a une évolution satisfaisante, il peut envisager une reprise professionnelle. Donc, ça dépend toujours de la sévérité du trouble, ça dépend de l'effort que le patient fait, ça dépend de l'encouragement de l'entourage. Voilà, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Si vous voulez contacter un orthophoniste, deux solutions, notre émission interactive, le mercredi 17 mai à 16h30, ou sinon me contacter au centre médico-social Sainte-Élisabeth de la Trinité. Et nous rappelons aux pédiatres, médecins et enseignants qu'on les invite à nous contacter s'ils veulent qu'on vienne leur présenter un peu plus les troubles du langage et des apprentissages et les bienfaits de l'orthophonie. Je remercie Dieudonné qui était à la technique aujourd'hui et qui a rendu possible cette émission. Chers amis, vous retrouverez Nazé Napoléon Lagbé le vendredi prochain sur Radio Immaculée Conception et d'ici là, belle semaine.